Quand vos reporters tendent
l'oreille au cœur
du Valois-Mussien, c'est
l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
Alors pour RVM.
Bonjour, c'est Yann.
Bonjour, Frédéric.
Alors qu'est-ce qui se passe ?
C'est
l'oreille dans le coin.
Les 18 et 19 novembre 2023 s'est déroulée au Tigre de Marny-lès-Compiègne dans l'Oise, la 7e édition de Food Histoire Compiègne. Food Histoire est à la fois un festival du spectacle historique et un marché de l'histoire. On débute le reportage avec Christophe Dargère, directeur de l'association Food Histoire Compiègne.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez faire la genèse de ce festival, s'il vous plaît ?
Alors, c'est un festival qui a été créé en 2006 à Pontoise, au Parc des Expositions, qui est resté jusqu'en 2015. Et en fait, en 2016, le Parc des Expositions de Pontoise a fermé. Donc, nous avons cherché un nouveau lieu. Et en fait, nous l'avons trouvé, effectivement, au Tigre, à Marny-lès-Compiègne. Et nous avons été tout de suite très, très bien accueillis par Compiègne, par Marny, par toutes les communautés de l'Arc. Et on est soutenus également maintenant par le département et la région.
D'accord. Alors sur place, vous accueillez durant 2 jours plus de 120 compagnies et troupes professionnelles.
Alors oui, en fait, c'est 2 parties. Il y a une partie festival du spectacle historique avec à peu près 120 compagnies de spectacle, comme vous l'avez dit. Et on a également plus de 250 artisans, marchands, qui viennent de toute l'Europe pour proposer des produits de reconstitution historique.
Donc sur place, on a plusieurs catégories. On a de la musique, de la danse, des chants, mais aussi du théâtre et du spectacle de rue.
Oui, on a également effectivement du dressage animalier, on a beaucoup d'artisanat, on a des activités ludiques, ça c'est important aussi, que ce soit en famille ou pour les plus jeunes. Donc voilà, il y a un peu tout ça, il y a beaucoup de choses à voir.
Est-il vrai que durant ces 2 jours, vous accueillez près de 24 nationalités ?
Alors 24, non, on est plus autour de 20. On est entre 18 et 20 nationalités, principalement sur la partie marché, effectivement, puisqu'nous avons des artisans qui viennent de toute l'Europe.
Toute l'Europe.
Ukraine, Russie. Alors là, il y a la guerre en Ukraine et en Russie, mais on a des exposants ukrainiens, des exposants russes. On a des Italiens, on a des Espagnols, des Suédois, des Belges, des Anglais. Donc vraiment beaucoup de monde.
Est-ce que la région des Hauts-de-France est représentée chez vous, monsieur ?
Oui, tout à fait. On a pas mal d'exposants qui sont soit de l'Oise, du département, soit de la région, que ce soit sur la partie festival, avec des compagnies professionnelles de la région, soit sur la partie, effectivement, marché.
Alors ce qui est intéressant dans votre festival, c'est que vous couvrez toutes les périodes historiques. On va de la préhistoire en passant par l'Antiquité celte, romaine, le Moyen-Âge, la Renaissance, l'Empire, la Belle Époque, et on finit par le XXe siècle.
Oui, c'est ça, exactement. On balaye vraiment quasiment l'intégralité de l'histoire de l'homme.
Qu'est-ce qui fait le succès de ce festival ?
C'est un festival qui est extrêmement visuel. Il y a énormément de spectacles. On a beaucoup de spectacles sur les 2 jours, et 2 jours, même 3 jours, puisque le vendredi est ouvert et réservé aux scolaires. Et tout ce qui touche à l'histoire, effectivement, forcément, ça plaît aux gens. Il y a la partie Moyen-Âge, mais il y a aussi toutes les autres périodes historiques qui plaisent beaucoup.
Le public, il est familial ici ?
Très familial, etc. Alors, on a un public de passionnés d'histoire, mais on a aussi un public, effectivement, qui vient en famille, puisqu'on a des activités, comme je le disais tout à l'heure, il y a des spectacles, il y a des activités ludiques. Donc, effectivement, à ce niveau-là, on a un public, surtout le dimanche, qui est très familial.
D'accord. Au niveau de l'organisation, c'est complexe ?
Alors oui, c'est une organisation, on s'y prend généralement 1 an à l'avance. Dès qu'on finit une édition, on commence à préparer l'édition suivante. Et puis là, effectivement, cette année, on est un peu dans des conditions particulières, puisqu'il a plu beaucoup. Et donc du coup, là, il y a tout un certain nombre de problèmes à gérer qu'on n'a pas d'habitude, comme l'électricité qui saute en extérieur, des parkings où certains véhicules se sont embourbés, etc. Donc c'est déjà une organisation complexe, mais là, cette année, c'était encore plus compliqué.
Vous attendez à peu près combien de visiteurs sur ces 2 jours ?
Alors, on n'est pas loin de 10 000 visiteurs. On tourne autour de 10 000 visiteurs. Donc ça commence à faire effectivement. Surtout que ce sont des visiteurs qui restent généralement toute la journée, voire qui reviennent les 2 jours. Donc, du coup, ça veut dire beaucoup de monde à un instant T sur le site.
Ça implique également beaucoup de logistique ?
Ah oui, en termes de logistique, effectivement, nous, on est 10 professionnels et une quarantaine de bénévoles à travailler pendant l'événement, mais aussi en amont, évidemment, il y a toute la partie préparation et installation.
La 7e édition va s'achever. Est-ce que déjà la 8e est en place ?
Dans nos têtes, oui, c'est sûr, mais en tout cas, dès que la 7e sera terminée, on commencera effectivement déjà à la préparer, oui.
Pour les auditeurs qui n'étaient pas là ce week-end, quel qualificatif vous donneriez à ce festival ?
Spectaculaire, tout simplement, parce qu'il y a énormément de spectacles. Donc c'est vrai que quelque part, même si on n'aime pas l'histoire ou on n'est pas spécialement d'affinité pour l'histoire, ça vaut le coup de venir parce qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses à voir.
Monsieur Dargère, merci à vous.
Merci beaucoup.
Mère de France, un beau bouquet. Mère de France, un beau bouquet. Quand elles sont jolies.
On poursuit le reportage avec Jean Géhan, créateur de la compagnie Gueule de Loup.
Salut à toi.
Alors, est-ce que vous pouvez présenter la compagnie, s'il vous plaît?
Alors, la compagnie Gueule de Loup, je l'ai démarrée en... Je crois que ça devait être... en 2000. On a commencé à faire un disque, parce qu'on est une base de musiciens. On a fait un disque, et puis de fil en aiguille, on a commencé à découvrir le monde médiéval. C'était plutôt un disque un peu musique folk. On a monté cette compagnie, on s'est costumé, puis voilà, on a commencé à découvrir le monde médiéval. Je trouvais que c'était génial parce qu'après avoir fait du rock pendant quelques années, où j'avais un public de 17-27 ans, d'un seul coup, je pouvais jouer dans la rue devant une petite dame qui passe. Je pouvais jouer pour ma mère, qui devait à l'époque avoir 70 ans, et je pouvais jouer aussi pour ma fille, qui à l'époque avait 7 ans. Et je trouvais ça génial de pouvoir jouer pour tout le monde. Et puis petit à petit, la compagnie a avancé. Aujourd'hui, on est une vieille compagnie puisqu'on a plus de 20 ans d'existence. Mais je continue toujours passionné à inventer des nouveaux instruments de musique, à inventer des nouvelles chansons, des nouveaux costumes et des nouvelles histoires à raconter, en gros.
Qu'est-ce que vous avez proposé ce week-end au Festival Faux d'Histoire ?
Nous, on est un peu sur deux tranches. On a des spectacles en déambulation, où on a des chars qui se promènent. Donc on a un grand char qui s'appelle le dragon. Donc on en a fait un grand dragon qui crache du feu et qui pète des plumes. Parce que vous savez bien ce que mangent les dragons. Ils mangent des oiseaux. Hein, le dragon, de toute façon, c'est déjà un oiseau. Donc il mange des oiseaux plus petits que lui. Il mange toutes sortes, tous les oiseaux du monde que vous connaissez. Hein. Ça passe des aigles en passant par les mouettes et par les poulets et par les moineaux en dessert. Et puis sur le coup de midi, quand il a bien mangé, il fait ça le matin quand il se réveille. Et puis le midi, quand il a bien mangé et puis qu'il a commencé à digérer la viande, il y a un truc qui ne se digère vraiment pas du tout, c'est les plumes. D'ailleurs, les hiboux font la même chose, et eux, ils vomissent. Mais lui, travaille le ventre et puis il fait quelque chose que je peux dire quand même, malgré tout, c'est la vie. Il pète un coup. Et quand il pète, eh ben, il y a des plumes qui sortent de son derrière. Et donc je dis à tous les enfants, je vous préviens, je crois que c'est l'heure du paix du dragon. Et quand le dragon va lâcher son paix, il y a des plumes qui vont partir au ciel. Si vous attrapez les plumes qui sont dans le ciel et qu'elles ne tombent pas par terre, elles sont pures. Et ça, vous les donnez à votre maman, vous la mettrez ça dans un livre et ça sera un porte-bonheur pendant des années. Voilà, donc ça s'appelle le dragon. On a un spectacle qui s'appelle La tribu du Drakkar. Donc il y a une danseuse, il y a une comédienne sur échasse qui est un peu le gourou, et puis trois musiciens, et puis quelqu'un qui pousse le drakkar. On a toute une histoire sur notre drakkar qui arrive, qui monte la voile, qui part, une rencontre avec quelqu'un d'autre. En fait, on est des pacifistes, parce que dans le médiéval, je ne suis pas tellement pour les épées, les armes de guerre. Je trouve qu'on en voit trop autour de nous. Il ne faut pas éduquer nos enfants à la guerre. Ça en fait des résultats comme on voit aujourd'hui. Et donc, du coup, on a un peuple pacifique qui vient de dériver, qui arrive dans un autre pays, et on rencontre un autre personnage qui fait partie de notre compagnie. On se demande qui c'est, qu'il fait. Donc, on se rend compte, quand tu rencontres quelqu'un, bah, c'est de la haine, c'est de l'amour, c'est de la méconnaissance.
Je ne suis pas un prince, je ne suis même pas chevalier, je ne viens pas de Reims. Je ne suis même pas écuyer, mais je chante du soir au matin. Mais je chante le long du chemin.
Vous écoutez actuellement l'interview de Jean-Christophe Géhan, le créateur de la compagnie Gueule de Loup, basée à Angers.
Mais je chante le long du chemin.
On a un spectacle qui marche bien aussi depuis des années, et qui est vraiment intéressant, qui s'appelle le Carillon. En fait, à 5 ans de ballet, je me suis acheté un poste à souder. J'ai appris à souder. La première chose que j'ai fait, mais les 6 premiers mois, je me suis fait fabriquer des cloches. Donc j'ai pris de la ferraille, je l'ai martelé, je l'ai plié, je l'ai soudé, je l'ai balancé à coups de pied. Et petit à petit, j'ai réussi à faire un do. Et quand tu fais un do, tu te dis, si je fais un peu plus grand, j'aurai peut-être un ré et un mi et un fa et un sol. Puis avec l'aide de mes copains qui, eux aussi, ont des oreilles de musiciens, on a réussi à les accorder et on a fabriqué des cloches. Et une fois que j'ai fait ça, je me suis dit, mais Qu'est-ce qui a été le premier? Est-ce que ça a été le clocher ou les cloches? J'ai fabriqué un clocher pliable qui monte à 4 mètres de haut avec un musicien qui joue des cloches. Et ça donne une ambiance terrible, parce que les cloches, c'est vraiment un outil du Moyen-Âge. Les cloches, ça servait bien sûr aux vaches, ça servait à effrayer les gens quand on était sur la route avec les gros lots qui étaient autour des coups des chevaux pour les charrettes, etc. Et puis ça servait à dire, il y avait le tocsin qui était pour les incendies, l'attaque du château, et puis les cloches pour la prière du dimanche, et puis les cloches pour les enterrements, ça rythmait, et les cloches des mariages, ça rythmait les baptêmes, toute la vie du village. La taille des cloches devait avoir la taille du son par rapport au village, pour pas que la cloche du voisin aille sonner chez le village d'à côté, après tout chacun chez soi, et que le paysan qui habite sur ce terrain de village là puisse entendre aussi l'heure et entendre les appels au secours, les appels à l'aide ou à l'incendie et tout ça, quoi. J'ai fait un clocher pliable qu'on met dans notre camion, et après on arrive, on l'installe dans un village, et il y a une musicienne qui est harpiste qui joue, quelqu'un qui fait du hautbois, ou des fois on a une violoniste.
Et la compagnie Gueule de Loup, elle est basée à Angers, c'est ça?
Ouais, on est basé à Angers, donc mais on se trimballe partout en France. Je reviens sur la guerre et la paix. Au début du Moyen-Âge, ce qui me choquait assez, c'est de voir des hommes se trimballer avec des épées, avec des hallebardes, des haches tranchantes, de voir des camps de gars qui faisaient effectivement la soupe et qui faisait d'autres choses, mais qui toujours avait un râtelier d'armes, comme si au Moyen-Âge on ne faisait que ou la guerre ou la bouffe, alors que les gens ils cultivaient, il y a les architectes qui prenaient des mesures, les tailleurs sur plaire ils taillaient, les autres faisaient, enfin tu vois, je me suis dit c'est pas que les camps de guerre, quoi. Donc j'ai fait un petit village en bois avec des palissades, avec un puits au milieu du village comme dans tous les villages, et dedans j'ai fait des choses en bois ludiques pour apprendre. J'ai par exemple deux clés de voûte en bois, donc j'ai fait des pierres en bois avec la forme de la clé de voûte, tu vois, l'arrondi, et que les enfants apprennent à tenir pour faire une clé de voûte. Le Moyen-Âge sans clé de voûte, toutes les églises s'écrouleraient. Je pense que c'est une base mécanique qui est hyper importante, que tous les enfants doivent découvrir. C'est une base, avant de leur apprendre à jouer avec un portable, il faut leur apprendre comment ça marche une clé de voûte, quoi.
Nous étions avec Jean-Christophe Jehan de la compagnie Gueule de Loup, basée à Angers. Allez. Merci à vous.
Un dernier mot.
Mère de France, un beau bouquet.
On écoute Michel, il est le créateur de la compagnie de musique néo-médiévale qui a pour nom Résus.
Alors Résus, c'est un groupe de musique. Alors on dit qu'on fait de la musique dynamique pour faire médiévale. On ne fait pas de la musique médiévale. On fait de la musique un peu néo-médiévale. En fait, c'est beaucoup de compositions qu'on fait nous-mêmes. On met beaucoup de percussions, de cornemuses, c'est la musique très dynamique, pour les oreilles actuelles en fait.
Ok, comment est né ce groupe?
C'est très long à expliquer, c'est suite à un mariage, parce qu'avant on faisait un autre style de musique, puis pour faire plaisir aux mariés, on a fait ce style de musique, et puis depuis, on a continué.
Voilà. D'accord, vous êtes basé où?
À Metz.
D'accord. Il y a qui dans le groupe?
Alors dans le groupe, il y a Chris qui est à la percu, il y a Toto qui est à la percu, il y a Tom qui est au luth, et ensuite il y a Valérie et Sandrine qui sont à chalumine, et moi qui suis à cornemuse.
Vous avez déambulé durant les deux jours ici au Festival
Alors,
Fou d'Histoire?
On déambule pas, on joue en fixe.
D'accord.
On joue en fixe, on joue sur la scène intérieure et sur la scène extérieure.
D'accord. C'est des spectacles qui durent combien de temps?
20 minutes.
D'accord. Et c'est strictement musical?
Alors c'est musique, et là on est exceptionnellement accompagné par des cracheurs de feu. Jongleurs de crache au feu qui sont sur le stand là.
Vous précisiez tout à l'heure que vous faites de la musique néo-médiévale, vous pouvez préciser?
Alors c'est de la musique plus moderne que de la musique médiévale en fait. C'est fait pour les fêtes médiévales, c'est à consonance médiévale, mais les arrangements qu'on y apporte sont plus rock.
Quelles sont vos inspirations?
Les inspirations, c'est des groupes qui viennent d'Allemagne, comme Corvus Corax, des choses comme ça, quoi.
C'est important d'être ici à Marny-les-Compiègne ce week-end?
Oui, c'est très important parce qu'on prend contact avec des organisateurs, et ça nous permet de signer peut-être pour l'année prochaine et de remplir notre carnet pour l'année prochaine.
Michel, sur les réseaux, on tape R-H-E-S-U-S et on vous retrouve?
Oui, on nous retrouve sur Facebook, sur Insta, sur TikTok, sur on a même notre site.
C'était Yann Barré pour Radio Valois-Mulcien. J'étais donc, en ce samedi 18 novembre, au Tigre de Marny-les-Compiègne dans l'Oise. S'est déroulée la 7e édition de Fou d'Histoire Compiègne. Fou d'Histoire est à la fois un festival du spectacle historique et un marché de l'histoire.
l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur,
à très vite sur l'antenne d'RVM.